Allez, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous partager pourquoi j'ai écrit caféine comme un imbécile en haut du truc. Ah oui. Je vais vous partager mon roadbook pour les canaries, ce que j'en pense. Je vous ai mis aussi pour celles et ceux qui le souhaitent pour diverses raisons le fichier GPX parce que je me suis embêté à le convertir. Il n'y était pas sur le site, il y est peut-être maintenant. Bref. Et le déroulé de la course. Alors, les caractéristiques de cette course, Trans-Gran Canaria, on part du nord de l'île, on arrive au sud, quand tout se passe bien. Départ à 23h, on va faire, selon la police, 127,5 km. C'est ce que m'affiche Trace de Trail. Et 7444 mètres. Là, j'ai plus de doutes quand même. Je pense que la vérité se situe plutôt à 6700 d'expérience. Il y a 10 ravitaillements, mais il y en a, entre guillemets, que 7 qui sont autorisés à l'assistance. Bon, vous allez voir, c'est relativement confortable. Le matériel obligatoire, la carte d'identité, bon, ça, oui. Le dossard, oui, il faut un dossard. Réserve d'eau, 1,5 centilitres. Normalement, j'ai jamais besoin d'avoir ça. J'aurai toujours un litre sur moi, enfin, quand je repars des ravitaux, plein. Mais, bah, du coup, pour coller au règlement, j'emmène une flasque vide supplémentaire. Et puis sait-on jamais s'il fera très très chaud. Comme ça, j'aurai ça. Lampe frontale, oui. Bah oui, puisqu'il fait nuit. Feu arrière rouge. Alors là, bah, c'est simple, je me sers de ma lampe, enfin d'une e-light Petzl que j'accroche dans le dos. Téléphone portable, bon, je prends toujours mon petit machin chinois là qui va bien. Il demande du cash. Coûte, je vais prendre 1 €, hein. Une couverture de survie, bon bah ça c'est logique, c'est un classique. Une veste imperméable respirante, ça je vais bien la prendre parce que en fait le milieu de l'île a une météo qui est totalement aléatoire. Et dans le meilleur des cas, vous avez une dizaine de degrés et un petit peu de vent. Ça c'est le meilleur des cas. Dans le pire des cas, une fois il a neigé. Un tout petit peu, hein. Mais voilà, on a des températures qui peuvent se rapprocher de zéro, les nuages peuvent rester accrochés, et vous pouvez faire quand même 5-6 heures. Eh oui, parce que pendant 5-6 heures, vous êtes un peu au milieu, là. Et encore, ça c'est quand vous allez un peu vite. On peut facilement faire 5-6 heures dans un espèce de brouillard gris absolument dégueulasse. Donc, méfiance. Il faut emmener un peu de matos, voilà. C'est pas une course qu'on fait en short t-shirt. Enfin, on peut vraiment se faire piéger. Et puis, il demande une casquette, un bandana. Bon, là, j'aurai mon bof, hein, tout simplement. Réserve alimentaire, pareil, ce dont j'ai besoin. Alors, ravitaillement, départ de Las Palmas. Alors, là, si vous voulez, le départ de Las Palmas, c'est un petit peu embêtant parce que vous avez 3 bornes sur le sable. Ça, c'est le bordel. Chaque année, en fait, ça change un peu parce que si le sable est vraiment trop merdique, à des moments, ils nous font remonter sur un espèce de parvis en béton et puis après, on retourne dans le sable. Bon, écoutez, c'est le départ, hein, c'est. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, en 2019, Pau Capelle a quasiment fait ses 3 bornes à 18 km/h. Voilà. Ça lance la course, comme on dit. Moi, sur cette section, on va à Arucas. Il y a 19 km à faire, 600 mètres de dénivelé, hein, quand même. Donc, une belle section. J'ai prévu d'emmener 2 flasques. Chargé à 40 grammes de maltodextrine, 2 grammes de BCA et 200 millilitres de ceinture. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de ceinture. J'ai une espèce d'eau locale, là, qui est faite à Terror, mais qui est une ville de l'île. Mais je n'ai pas ma ceinture, donc elle est quand même beaucoup moins chargée et dosée. Donc je vais mélanger aussi un petit sachet d'électrolyte. Un demi-sachet, pardon. Une fois arrivé à Arucas, voilà, moi j'estime à peu près 1 h 40 de course. Sachez que Pau Capelle va être à peu près en 1 h 25. On a quand même fait 19 bornes et plus de 600 mètres. Là, je bois un coup, donc pareil, j'ai noté 150 ml de ceinture, mais vu que j'en ai pas, bah, ça va être de mon eau gazeuse de Terror, là. Et je consomme une petite purée de patates douces. Pourquoi patates douces? Bah, parce que elle est salée. Et en fait, vous allez voir, je cours après le sel tout au long de la course. Et je repars avec 2 flasques. Ah voilà, ce coup-ci j'ai bien marqué demi-électrolyte. Ouais, en fait je vais mélanger les électrolytes à cette petite boisson gazeuse parce qu'elle est trop sous-dosée. Et je repars avec, oui, bah ça, les 2 fois 40 grammes de maltose, c'est bon. Et une purée banane kiwi, voilà, tu vois. Alors qu'on s'apprête à faire une section de 12 km et 800 mètres de dénive. Donc, oui, c'est assez peu, mais en même temps, je prends le départ avec 2 baous sucrés. Et voilà, non, j'aurais quand même pas mal mangé. En plus, on sortira de table. Après, arrivé à Terror, là... J'attaque la caféine. Ah oui, c'est vrai que j'ai coupé le café depuis longtemps. J'attaque la caféine, une capsule toutes les 3 heures. Ça fait 100 mg toutes les 3 heures. Même topo au ravito. En fait, toujours pour rester dans une ambiance cool et détendue, je prends le temps de boire mon petit godet d'eau gazeuse, et de ma purée de patates douces. Bon, je vais peut-être l'emmener à la main, hein, mais voilà. J'ai choisi une stratégie de course où je vais aller plutôt doucement... au début, au milieu, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu et encore, garder le même rythme. Et puis l'idée va être de vraiment forcer vraiment à la fin, quoi. J'aimerais bien le faire pour une fois. Ouais. Je repars avec 2 flasques voilà, habituelles, on va dire, puisque là, j'ai toujours le droit à l'assistance. Et ma petite purée banane kiwi que j'ai reçue. Hein, elles font 90 grammes maintenant. Là, on part pour une section de 11 bornes et 1000 mètres de dénivelé. Mais c'est là où je pense qu'il y a une erreur. Sur trace de trail, parce que moi, dans mon souvenir, il y avait moins que ça. Et beaucoup moins que ça. Donc je pense que cette section va être beaucoup plus rapide, en fait. Ouais. Il faut que je me repenche là-dessus, parce que, à mon avis, il y a moins de dénive. C'est très bizarre, ça. Ce qu'ils annoncent sur trace de trail. Fontanales, là encore, mon frère pourra me ravitailler. Et à ce moment-là, bah, je vais faire exactement le même procédé. Simplement, après Fontanales, il y a un ravito où mon frère n'a pas le droit de m'emmener. Donc en lisant le graphe, vous allez comprendre, enfin en lisant le document. Donc je repars avec ma purée banane kiwi qui m'emmène au prochain ravito. Mais vu qu'au prochain ravito, j'ai pas de ceinture et d'électrolyte et tout le bazar, je vais arriver là-bas, il y aura juste une boisson. Je prends 2 purées de patates douces, 90 grammes. Et puis voilà. Alors, je sais un petit peu ce qu'il y a normalement, mais là encore, c'est voilà, c'est ce qui est marqué sur le papier, on n'est pas sûr. Normalement, il y a une boisson, le partenaire de la course, c'est 226 premiers. C'est pas ma boisson, c'est pas la folie, mais si tu veux, ça fera le taf. Disons que avaler 2 flasques avec cette boisson, ça va toujours mieux me réussir que prendre ouais, 1 minute ou 2 pour remplir les miennes avec le petit sachet que j'ai mis dans le sac, etc., etc. Pas non plus perdre trop de temps. Fontanelle récupère aussi les bâtons parce que autant c'est pas très dur jusqu'au barrage là à l'Ornio, autant après on remonte à Artenara et là c'est pas forcément que de la marche bâton, on trottine un peu aussi, mais on a quasiment passé les 6 heures de course, donc là, on cède quand même beaucoup des bâtons, même pour courir. Oui, par contre, dans cette boisson 226 premier, en fait, ce que j'avais noté, c'est qu'il n'y avait pas de BCA. Et du coup, j'en amène en capsule dans une de mes poches et je les consomme en route, en fait, vu que je ne peux pas en avoir à El Hornillo. Voilà donc pour l'explication. Donc 4 grammes à El Hornillo, qui remplace ce que je mets dans les flasques habituellement. Voilà. Alors, ensuite, El Hornillo, du coup, à part remplir mes flasques, c'est tout, hein, parce que la bouffe, j'ai sur moi. Je vais ensuite passer... Voilà, Artenara, c'est là. En plus, Artenara, en général, votre frontal s'éteint, parce que, voilà, je prévois d'y arriver avec 7h20 de course. Donc, à ce moment-là... Ce qui serait bien, c'est que je me fasse pas piner comme en 2019 et que j'éteigne ma frontale à un endroit où il y a de la lumière. Parce qu'en 2019, elle s'est éteinte dans la forêt et j'étais complètement baisé. Donc ça, il faudrait bien que j'y pense pendant la course. Et puis à Artenara, bah là, je retrouve mon frère pour l'assistance. Donc on repart sur du classique, boire un verre d'eau, prendre la purée qui me tend et puis repartir avec mes 2 flasques correctement remplies cette fois. Et ma petite purée banane kiwi. Puisque pour la Tereda, c'est assez rapide. On monte une bosse. Oh, il dit 650 mètres. Moi, je crois qu'il n'y a que 450, hein, franchement. Là aussi, je pense qu'il y a une petite erreur sur la trace de trail. Parce que Artenara, on est à 1300, peut-être 1250. Et on va pas à 1008, hein, ça c'est sûr. Et après, on redescend à Tereda. Et en général, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu mal aux genoux. Hein, voilà, 8h30 de course à peu près. Là, je ne prends qu'une flasque et une purée de patates douces parce qu'on va rapidement arriver à Elgaranon. Tu vois, Elgaranon... Bon, là, j'ai prévu 45 minutes. C'est un peu excessif. En fait, j'ai prévu d'accélérer après Tereda. Vraiment après Tereda, tu sais, je me mets en mode trail court et tout, à fond. Bon, je serai quand même fatigué hein, après 8h30 dehors. Mais disons que voilà, à ce moment-là, la psychologie s'inverse. Alors qu'avant, je suis censé être dans le confort. Voilà, c'est bon. Écoute, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est comme ça que ça marche en prépa mentale et tout. Après, est-ce que ça se réalisera vraiment dans les faits? On verra. Mais le but, c'est ça. Une fois arrivé à Garanon, j'ai encore le droit à l'assistance. Donc là, je reprends aussi mon deuxième shaker de whey, si tu as suivi. Et j'embarque pas mal de purée. Ah non, que deux. Tiens, pourquoi que deux? Oui, pourquoi que deux? Parce que le prochain ravito, il est dans... Ah non, dans moins de 2 heures. Ouais, ok, bon, c'est normal. Et au Roque Nublo, voilà, pas d'assistance, mais bon, une petite banane à la volée sur le ravito, parce que je vais être un peu léger quand même avec mes purées. 4 grammes de BCA, voilà, tout va bien. Arrivé à Tunte. Là, on retrouve les ravitaillements, on sera au kilomètre 100, je dépose mes bâtons, il n'y a plus besoin, après vous allez voir, il y a très peu de dénivelé. Vu que j'ai mon frère sous la main, je recommence un peu le cinéma, voilà, avec la ceinture et la purée de patates douces, et une flasque de coca, oui, parce que là, vu que j'avais prévu d'accélérer, il va falloir relancer, donc là, je triche, entre guillemets, en buvant du coca, la flasque Malto, BCA, tout ça, et j'embarque, là encore, pas mal de purée, une purée pomme au poire, purée patate douce, purée banane kiwi, parce que je n'aurai pas mon ravito à Ayagüez. Et à Ayagüez, eh ben là, je vais remplir, au lieu de remplir leur truc là, je vais remplir une de coca et une de 226 premiers. Et 4 grammes de BCA, ça je les ai dans la poche. Voilà, et ensuite, eh ben, on va à l'arrivée, si tout va bien. Alors, à l'arrivée, elle a un petit peu changé, en fait. Pour ceux qui connaissent, vous faites un canyon tout pourri, là, une espèce de lit de rivière dans les cailloux. Après, vous reprenez une piste forestière et vous entrez dans la ville. Et à ce moment-là, en entrant dans la ville, en fait, vous êtes dans un espèce de canal asséché. Et vous sortez du canal, il y avait un petit ravito avec des bonbons, et après, il restait 3 bornes. Et ben, en fait, l'arrivée sera là. Dans un parc. Voilà, ce qu'ils appellent parc et sourd. Et, tu vois, j'ai pronostiqué le truc en 13h40. Bon, ça m'aurait fait gagner l'an passé. Autant les temps jusqu'à Artenara et Tereda, ils sont pas... Voilà, ça va. Par contre, j'ai matraqué un peu le chrono entre Tereda et Tunte. Donc j'ai prévu vraiment une très vive accélération. Je sais pas si j'en serais capable. Et entre Tunte et l'arrivée, les 26 dernières bornes, j'ai reprévu du 10 de moyenne, ce qui n'est pas totalement déconnant avec le D+, qui est quasiment absent, vous le verrez. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, je vous ai listé un petit peu tout ce que j'utilisais, les quantités que ça faisait. Et je vous ai mis le parcours avec le lien trace de trail. C'est moi qui l'ai fait, hein, donc allez-y. Et les favoris tra, voilà. C'est là où je voulais en venir. Conclure. Nos petits favoris, Aidenoux. Alors Aiden, ça peut être la grosse cote sur cette Transgran Canaria parce que le gars s'y est pété les dents. Il est parti beaucoup trop vite en 2019, il a abandonné au kilomètre 100, mais il a déjà fini, tu vois, le Lavaredo dans des chronos extraordinaires, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Yared Azen, On ne sait pas trop où il en est dans sa préparation. Pau-Capel, bon, il revient quand même d'une opération du genou, c'est délicat. Est-ce que ce sera le Pau-Capel des autres années? Je rappelle qu'il reste quand même sur 4 victoires ici, hein, de 2017 à 2020. C'est quand même assez impressionnant. Jimmy Elam, ça c'est un Américain que je ne connaissais pas. Il s'est un petit peu cantonné à des 100 bornes très peu escarpées aux États-Unis. Donc bon, à mon avis, ça va quand même lui paraître dur, cette Transgrancanaria. Pablo Villa, bon, là, c'est un autre grand favori avec Aiden Hooks et Pau-Capel. Lionel Christian Manol, lui, je ne connais pas trop. Je ne sais pas ce qu'il a fait l'hiver. Je ne sais pas ce qu'il a l'habitude de faire l'hiver. Néanmoins, il a gagné le Val d'Aran by UTMB dans un temps canon. Et après, il s'est cassé les dents à l'UTMB parce qu'il n'avait pas suffisamment récupéré. Donc, est-ce qu'il est intelligent ou pas? On verra. Surprise. Moi, je pense que c'est une belle cote à jouer. Sage Canadais, bon, j'y crois pas trop. Je vois pas vraiment ce qu'il vient faire là-dessus. Perry Aurel, le podium de 2021. Très grosse cote. Mario Olmedo, ça me semble beaucoup trop long pour lui. Robert Aynal, si j'ai bien eu accès à ses entraînements, comme j'ai cru le comprendre, et que c'était pas du bluff ou du fake, il a pas assez couru. Donc ça va coincer. Jonas Russi, c'est comme Lionel Christian Manol, je sais pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire l'hiver. Néanmoins, le mec reste quand même sur un podium au tort, sur un top 5 à l'Endurance Trail des Templiers dans la foulée, donc bon, il est énorme. Hein. Il est énorme. Baptiste Chassagne, ça c'est mon coup de cœur pour le top 5, après sa 9e place à la CCC. José Fernandez, je connais pas du tout. Jordi Gamito, bon bah là Jordi, voilà, faudrait qu'il se calme un peu au départ. Est-ce qu'il va en être capable? On verra. Gabriel Oreda, c'est un Argentin, voilà, je connaissais pas. Didrik Hermansen, alors là ça va être très intéressant. Il revient sur la Transgran Canaria. Il y a déjà fait un podium en 2017, il l'a déjà gagné en 2016. Donc voilà, pourquoi il revient? C'est vrai qu'on l'avait perdu de vue pendant tout l'épisode Covid et puis même 2019, on l'a pas vu. Francesco Cucco, ça aussi c'est ma grosse cote pour le top 5, quatrième l'an passé. Isaac Salvat, je connais pas. Rodrigo Monassor non plus. Cédric Chavet, pareil, ouais, là, pour un top peut-être plus 10. C'est vrai que c'est la prudence avec l'hiver en plus. Rui Ueda, le japonais, bon là, bien sûr, ça nous fait tous bien rire. Isaac Riera, je connais pas trop, moi, avec ma cote à 800. Clément Desilles, qui va peut-être voilà, top 10, top 15, pourquoi pas. Et puis Samir Tazi, pour continuer à citer un peu nos Français. Voilà, on arrive avec une cote à 786 avec Samir. Donc je vous en ai parlé hein, brièvement, ma stratégie, ça va être vraiment de passer lentement au début. Alors lentement, vous voyez, hein, c'est une lenteur qui est relative. Terror, 31 km. 1460 mètres de dénivelé, et moi je prévois d'avoir fait du 10 de moyenne. C'est quand même rapide. Après, voilà, par rapport à la tête, j'aurais facilement 20 minutes de retard, donc même en partant entre guillemets doucement, vous voyez que devant ça n'attend pas. Alors qui va tenir jusqu'au bout, qui va péter? Ben, bonne question. Quand je vous dis par rapport à la tête, c'est que Pau-Capel gagnait parfois en 12h42, et l'estimation, du coup, c'est de le voir passer à Terror en 2h34. Imaginez, il m'aurait mis 26 minutes. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je finis mes petits préparatifs. Et puis, je vous mets l'accès, bien sûr, à tout le document. Il est possible que j'ai oublié des favoris. Ils vont peut-être apparaître sur le live try. Parce que j'ai réalisé ce classement la semaine dernière avec toutes les infos que j'ai pu glaner sur les différents sites internet. Voilà, je vous laisse là-dessus, amis patriotes. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ce document pour vos courses prochaines, reprendre cette base. Si elle vous plaît, c'est à vous. Je vous mets même le Word pour celles et ceux qui veulent travailler directement dessus. Allez, salut.